Alpe 1, l'invité de la rédaction.
Étrange week-end, étrange sensation, paradoxe des week-ends où la mort se mélange à l'amour sous un air de révolution. Il en va souvent de cette actu qui mêle le plus terrible comme le plus vaporeux. La Grèce s'embrase sous l'œil du citoyen européen qui ne s'imagine pas être passé à la moulinette comme les Grecs le sont aujourd'hui. Et parallèlement à cela, nos émotions collectives ont pris le dessus sur l'histoire européenne qui se joue devant nous et pleure, celle qui a chanté durant toute sa carrière l'amour en version popstar. Et voilà nos souvenirs collectifs d'amour de vacances impossibles qui se font la malle, partis en laissant de nombreuses fausses notes sur sa vie d'artiste, une vie de paillettes qui lui aura tout donné et tout repris en quelques années. Enfin, le président, supposé candidat, nous annonce son entourage, devrait se déclarer cette semaine. Non. Non, ne me dites pas qu'il ferait ça. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin ? Oh, imaginez. Français, française, je vous aime. Oui, je vous aime du plus profond de mon cœur. Et je peux vous prouver, je veux vous prouver qu'en 2 mois, je pourrai faire ce que je n'ai pas fait en 5 ans.
Non mais Alex, là vous prenez position.
Non, je prends pas position, Cyril, je joue juste l'air de la rue. Alors donc, Nicolas Sarkozy n'aura donc pas pu attendre mars pour aller au combat de la rhétorique face au candidat socialiste. Vite lâchez le faux, vite lâchez-le, le candidat veut en découdre. Chez nous, les fauves des législatives ne sont pas encore tout à fait lâchés et sont plus dans la retenue face aux petites phrases et déclarations. Notre invité d'ailleurs, lui aussi, comme le président, remet le couvert et se lance de nouveau dans la bataille. Face à lui, la très discrète pour l'instant Chantal Emeyoud et peut-être le maire brillant de sonner, Gérard Fromm, et notre invité. Que veut-il pour l'avenir du département ? Voilà l'une des questions qu'on va lui poser.
Voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité aujourd'hui pour la suite de nos rencontres avec les candidats aux législatives. Joël Giraud, député maire PRG de l'Argentière, candidat PRG aux législatives. Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Candidat PRG-PS, on peut le dire.
PRG-PS, puisque bien sûr, il y a des accords entre PS et PRG. D'ailleurs, on va y revenir. Hein. Est-ce qu'on peut faire un lien, selon vous, entre Gérard Fromm et Nicolas Sarkozy, un candidat qui ne se déclare pas ?
Oh ben je ne ferai pas une telle insulte à Gérard Fromm de considérer qu'il ressemble dans la méthode à Nicolas Sarkozy. Bon, cela étant, j'aimerais bien que les choses soient claires effectivement avant les présidentielles. Ça nous permettrait d'aborder cette question des présidentielles comme elle doit l'être, c'est-à-dire en toute sérénité et avec une volonté qui est de gagner pour changer les choses dans ce pays.
Vous en avez discuté avec lui ?
J'ai tenté d'en discuter, nous nous sommes rencontrés, nous avons déjeuné. Je n'ai pas d'oracle particulier à vous donner en la matière.
C'est pas quand même, malgré tout, on en sourit, mais est-ce que c'est pas un danger quand même pour la gauche en général ? Vous le dites, hein, vous êtes aujourd'hui PRG-PS, est-ce que c'est pas un danger s'il se présente demain ?
Je l'ai dit et je le répète, c'est pas malin de diviser à gauche, alors que moi ça fait des années que je me bats pour qu'il y ait un processus de primaire à gauche. On a enfin été entendu par le Parti Socialiste, les deux partis politiques se sont décidés pour organiser ensemble ces primaires. Donc je pense que quand on donne une image d'unité au niveau des présidentielles parce que la France l'attend, c'est pas la peine de donner une image de division au niveau des législatives. Voilà, c'est mon opinion. Et à partir de là, bon, tous les états d'âme peuvent se mettre en œuvre, on peut discuter avant que des accords soient signés, mais quand des accords sont signés, moi je fais partie de ces gens qui sont loyaux. Je les respecte, même quand quelquefois j'ai des difficultés à soutenir un candidat, mais je les respecte.
Joël Giraud, vous nous parliez d'un repas que vous avez eu avec Gérard Fromm. On se doute que vous n'avez pas eu de langue de bois et que vous vous êtes dites les choses clairement. Est-ce qu'il a des choses à vous reprocher pour vous dire « pousse-toi là que je m'y mette » ?
Ouais, pour être très franc avec vous, les choses à me reprocher, c'est effectivement certains votes au Parlement et certains votes, mais qui sont des votes conjoints à l'Assemblée régionale.
C'était lesquels qui ont posé problème ?
Vous savez, notre parti politique a une liberté de vote au sein du groupe socialiste, radical et citoyen. Moi, j'ai usé de cette liberté de vote plusieurs fois. Par exemple, je n'ai pas voté, et je continue à croire que j'ai raison, la pénalisation du génocide arménien. Voilà, je l'ai fait savoir au président du groupe, Jean-Marc Ayrault, qui est par ailleurs un ami.
C'est uniquement des questions nationales et internationales qui vous reprochent ?
Des questions régionales aussi, parce que bon, il semblerait que certaines subventions octroyées à certaines collectivités posent problème à des militants de partis politiques. Moi, je continue à penser que si un projet est bon, la majorité régionale à Marseille doit le subventionner, doit l'accompagner. Et s'il est mauvais, eh bien, elle ne l'accompagne pas. Et après, c'est vrai que je ne regarde pas la couleur politique de celui qui le porte. Je ne l'ai jamais fait. Je ne vais pas commencer à faire ça maintenant.
On parle des législatives, on parle des présidentielles, on va parler d'autres échéances. Bien sûr, les sénatoriales et les territoriales. Alors, les territoriales, c'est bien sûr si la droite passe en 2014. Est-ce qu'il y a un accord entre Gérard Fromm pour savoir qui se présentera ?
En gros, non. Pour être clair, est-ce qu'on peut imaginer que pendant le repas, où vous vous êtes dit, bon, tu me laisses les législatives, on va pas se tirer dans les pattes, je te laisse le Sénat, et ou le Conseil général.
Non, on s'en a absolument pas discuté de ça, parce que d'abord, il ne vaut mieux pas aborder ce genre de questions avec moi de marchandage, ça ne marche pas. Et puis parce que l'avenir, moi, je ne le connais pas spécialement bien, je veux dire. Donc, il y aura des procédures. Je crois qu'on est toujours dans la même logique. Il y a des partis politiques qui animent la vie politique, et il y a des procédures de désignation en fonction d'intérêts locaux. Demain, je ne sais pas ce que seront les élections territoriales, mais il est clair que si j'étais réélu député, je ne serais en aucun cas candidat, bien évidemment, à des élections territoriales qui auraient lieu en 2014. Parce que, bien évidemment, la limitation des mandats doit être un objectif de cette législature. Alors, c'est vrai que les radicaux de gauche et les socialistes ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Nous, on a toujours dit qu'il faut un mandat local au sens extensif, c'est-à-dire en comprenant les communautés de communes, et un mandat national, et ça suffit. Bon, le Parti Socialiste est plus sur le mandat unique. Bon, cela étant, j'écoute déjà au Sénat des voix un petit peu divergentes et qui disent que finalement, les maires des communes de moins de 5000 habitants ne seraient pas considéré comme étant un mandat. Donc, bon, attendons calmement les choses. Ce que je crois, c'est qu'il faut effectivement limiter le nombre de mandats, mais en même temps, il faut également qu'il y ait un statut de l'élu. Parce qu'à l'heure actuelle, si beaucoup de femmes ne se présentent pas à ces élections, c'est aussi parce qu'il y a un manque de statut de l'élu. C'est tout simplement ça. Parce que les femmes sont souvent aussi mères de famille, et j'allais dire, malheureusement, les choses ne sont pas équitables dans ce pays. On n'est pas en Suède, chez nous. De la même façon, vous avez une république un petit peu, de temps en temps, des fonctionnaires. J'en fais partie. Tout simplement parce que quand vous bossez dans le privé, c'est pas si facile que ça de se présenter aux élections, vous avez une perte de revenus, vous n'êtes pas sûr de retrouver votre emploi. Donc je mets le statut des élus avant tout cela, parce que je crois que si on veut que la vie politique se démocratise, eh bien tout simplement, il faut que les gens ne soient pas pénalisés par le fait qu'ils sont candidats.
Il faut que ça en devienne un métier.
Il faut que ça en devienne un métier. Il faut pour le moins, je parle de non-pénalisation, c'est-à-dire de ne pas devenir un métier, parce que transformer ça en métier pose un léger problème à mon avis. Cela étant, nous sommes dans des logiques où maintenant, pour être un élu local, il faut être archi-formé. C'est quand même quelque chose qui maintenant est très difficile. La vie est plus compliquée qu'avant. C'est vrai au niveau professionnel, mais c'est vrai également au niveau des mandats locaux. Donc à partir de là, bon, certes, il ne faut pas que ça devienne un métier, c'est-à-dire qu'il faut toujours que le retour soit possible à ce que j'appellerais entre guillemets publique. Un vrai métier. Mais pour autant, il faut, lorsqu'on est dans ces fonctions-là, avoir la même professionnalisation que si on exerçait un métier classique.
Un débat sur lequel on pourra revenir. On va juste quand même finir sur, on va appeler ça le dossier Gérard Fromm, puisque ça pourrait, devenir un.
Oui, on va parler de vos rapports, on va parler de photos avec Gérard Fromm. Alors, on va... comme ça, vous n'appréciez pas ne pas être dans le cadre quand le petit oiseau est sorti.
Alors, on va quand même expliquer. Hein, avant,
oui, expliquer, parce que ça comprendra. Voilà,
c'était en janvier dernier, lors du vernissage de l'exposition La France en relief. Sur cette photo, on voit Gérard Fromm prendre la pose aux côtés du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Et puis, une photo qui a été tronquée sur le Dauphiné libéré, puisqu'on ne vous voit plus dessus.
Alors, on en parle parce que...
Attention, ce n'est pas le Dauphiné libéré qui l'a tronqué.
Dauphiné c'est libéré la municipalité de Briançon.
A donné la photo qu'on lui avait fournie.
Alors, c'était justement ça le fond de notre question.
Je crois que tout simplement, ce genre de choses démontre qu'au bout d'un moment, il faut dans la vie politique avoir une certaine loyauté, il faut avoir une certaine reconnaissance d'un certain nombre de choses. Bon, à partir de là, découper les gens sur une photo, c'est vrai que je l'ai mal pris, parce que depuis l'époque de Mao, de l'époque de Staline, ça se faisait pas trop, quoi. Voilà, dont acte, l'incident est clos. J'aurais aimé effectivement que ce soit un mauvais cadrage du Dauphiné libéré, tel n'était pas le cas. Donc, j'en prends acte et je me dis que peu importe qui l'a fait, dans quelles conditions, mais sur le fond, comme pour le reste, c'est pas très malin. Mais l'important, je vous le disais, c'est la campagne des présidentielles. Donc moi, je passe dessus pas mal de choses.
Bon, alors on va justement passer à un autre dossier, hein, si vous voulez bien. Alors on va parler peut-être des présidentielles. On va surtout s'intéresser aux dossiers locaux. Et on va parler santé, Cyrielle.
Oui, la santé dans la deuxième circonscription des Hautes-Alpes, on sait, ça pose problème. On parle notamment du service de réanimation de l'hôpital de Briançon, qui sera transféré en 2016 à Gap. Alors pour une coopération entre Briançon, Gap et Embrun. Vous aviez rencontré le ministère, oui, le directeur de cabinet en décembre dernier, pour parler de ce sujet justement avec Gérard Fromm. Et vous nous aviez annoncé des avancées et que l'ARS devait revoir sa copie. Pourtant, quand on a rencontré Dominique de Roubaix, le directeur de l'ARS PACA, la semaine dernière, il nous a dit que non, il était hors de question de revoir ce qui était dans les cartons, c'est-à-dire de revoir ce service, ce transfert. Alors, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou un discours politicien pour les législatives?
Bah écoutez, moi j'ai entendu dans le bureau du directeur de cabinet ce que j'ai reproduit, c'est-à-dire qu'à la fois il fallait prendre en compte la problématique transfrontalière de l'hôpital de Briançon et deuxièmement qu'il était exclu compte tenu de la distance qui nous sépare de Gap et des difficultés tout simplement pour aller au centre hospitalier de Gap, de faire en sorte qu'on décide dans le schéma actuel régional de santé une fermeture de cette réanimation à Briançon. Ensuite, nous avons eu une réunion et je ne suis pas le seul témoin, il y avait la préfète des Hautes-Alpes, M. Deroubaix est venu à cette réunion, il a dit il y aura demain une réanimation à Briançon. Bon, je lui ai demandé s'il allait l'inscrire dans le plan régional de santé. La réponse était oui.
Mais pas en 2016.
La préfète l'a entendu comme moi. Je ne crois pas qu'elle soit particulièrement satisfaite de l'attitude du directeur régional de l'agence régionale de santé.
Manipulation de la part de l'ARS.
Donc, je pense que M. De Roubaix est tout simplement un homme, je suis désolé de le dire, mais qui ment suivant les interlocuteurs qu'il a. Donc, je ne pense pas qu'un haut fonctionnaire de l'État soit fait pour ce genre d'exercice. Nous sommes partis de la réunion avec l'agence régionale de santé qui est j'étais relativement rassuré, sauf sur le côté transfrontalier, parce qu'il semblait que, comme vous sans doute, il a des problèmes pour parler italien, M. De Roubaix. Donc il a quand même tenté, pendant l'été, de faire en sorte que la convention soit dénoncée, qu'il venait de signer, pour mieux justifier cela, en envoyant une lettre, je tiens à le rappeler, à son homologue italien du Piémont, en lui disant qu'il avait 5 jours pour lui dire s'il voulait continuer le protocole ou pas. L'autre lui a répondu, malheureusement, sous 5 jours. Malheureusement, j'allais dire, pour M. De Roubaix. Bon, voilà, je veux dire, il y a quand même des méthodes de faux cul, comme j'en ai peu vu.
Donc, vous appelez au mensonge sur ce dossier-là.
Oui, tout à fait. Ce qui est particulier, c'est que vous me parlez de discours qui changent de la part de M. De Roubaix. Pourtant, Chantal Hémeaud, justement, qui est votre rivale également pour les législatives du côté de la droite, avait annoncé, elle, par contre, que l'ARS avait repoussé cette fermeture à 2016. Son discours était donc un peu plus proche de la réalité.
Ah ben, je crois que Chantal Hémeaud est en train de faire le lit de la fermeture de la réanimation à Neubriançon, tout simplement en se mettant au garde à vous derrière M. De Roubaix.
Malgré le fait malgré le fait qu'elle est plus dans l'espoir de repousser l'échéance pour obtenir le label hôpital de montagne, hôpital transfrontalier, qui pourrait le rendre intouchable.
Attendons un petit peu, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il faut être très clair. Quand vous annoncez la fermeture d'un service, les médecins qui sont attachés à ce service, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de partir. C'est comme ça qu'on fait pour tous les services publics. Tous les services publics dans ce département, on dit aux gens, mais de toute façon, d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, ce service va disparaître. Donc les gens cherchent un autre endroit. Donc on va arriver en dessous du seuil critique du nombre de médecins. Conclusion, la question de la réanimation, à terme, ne se posera plus puisqu'il n'y aura plus de médecins réanimateurs. Mais c'est ça que monsieur De Roubaix, et ce que n'a pas compris Mme Hémeaud, c'est tout simplement qu'elle est complice de cette situation.
Mais ce n'est pas une bonne idée donc pour vous retarder un petit peu pour éventuellement avoir ce statut qui permet que l'hôpital devienne touchable?
À condition que dans le plan régional de santé, il n'y ait pas ce couperet de toute façon de la fermeture. Or, il y est. Donc moi, ce sur quoi je ne transigerai pas, c'est le fait qu'il y ait le couperet. Au niveau du cabinet du ministre, ça avait été très clair. On nous avait dit, on va poursuivre les études, il n'y aura pas le couperet, et donc à partir de là, on jugera in fine, à la fin du SROSS, du plan régional de santé et du schéma régional d'organisation sanitaire et sociale, à la fin, nous verrons où en est la situation. Là, on fait le contraire, on dit, on annonce la fermeture, on va faire quand même une étude. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un petit peu avec l'éducation nationale le même problème qui est celui de Vers-Saint-Pancras.
Joël Giraud, comment on fait? Est-ce qu'on rentre dans une guerre des chiffres? Parce que l'ARS nous dit qu'il faut le fermer puisqu'un service de réanimation est viable quand il y a 15 lits occupés. Or, à Briançon, comme du côté de Digne-les-Bains, il n'y en a que 2 par an.
Ben 15, tout simplement, le coût des 15 lits, c'est tout simplement une gestion comptable. C'est-à-dire on divise tout simplement les moyens dont on dispose et on voit qu'à partir de ce moment-là, il faut fermer la moitié des services de réanimation dans la région PACA. Le seul problème, c'est que, comprenez que il y a déjà eu des fermetures d'hôpitaux, de services de réanimation et autres. On m'a souvent comparé Briançon et Chamonix. La seule différence, c'est que Chamonix, c'est à 20 km d'autoroute de Sallanches, pardon, et que Briançon n'est pas à 20 km d'autoroute de Gap, et qu'on va avoir vraiment des dégâts. Moi, je veux qu'on reprenne ça calmement, mais honnêtement, et M. De Roubaix n'est pas honnête dans ses assertions, il ne l'est même pas vis-à-vis d'une préfète, ce que je n'avais encore jamais vu de la part d'un haut fonctionnaire, et je vous annonce une prochaine initiative de deux députés, d'Henriette Martinez et moi-même, de façon à ce que nous ayons un rendez-vous directement avec Xavier Bertrand cette fois, de façon à ce que nous mettions les choses à plat, mais directement avec le ministre de tutelle, nous n'irons plus voir le directeur de cabinet, Nora Béra.
Vous parlez de transport, ce qui pose problème de temps en temps ici, c'est les transports, je vais y arriver.
Même souvent,
pour être gentil. On va justement écouter Maurice Fortoul, notre confrère de la Provence Alpine, qui a une question à vous poser sur ce sujet. On écoute votre réaction juste après.
Joël Giraud, bonjour. Samedi 18 février se tiendront des états généraux du ferroviaire à Gap. C'est une première. Hein. Selon vous, qu'est-ce qu'il importera de mettre en avant? Alors, s'il vous plaît, ne me répondez pas, la locomotive.
Oui, ça c'est du Maurice.
Ouais, Maurice Fortoul qui vous connaît bien manifestement, il sait que vous aimez des calembours. Hein.
Oui, plus sérieusement. Ben, très sérieusement, moi je crois que la chose qu'il faut mettre en avant, compte tenu des difficultés que nous avons pour tracer le train de nuit Paris-Briançon, pour tracer même les trains express régionaux avec des correspondances correctes à Valence, eh bien il faut mettre à l'ordre du jour l'arrêt du démantèlement qui est celui de la coupure entre Réseau Ferré de France et la SNCF qui fait qu'aujourd'hui ces deux services ne se parlent plus. Je vous rappelle quand même que Jean-Yves Petit, le vice-président de la région chargé des transports, et moi-même, nous avons organisé une réunion à Briançon pour qu'ils se parlent. Enfin, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, c'est des élus qui demandent à deux services, d'ailleurs où ils ont la même formation, de bien vouloir se parler. Donc la première des choses à faire, à mon avis, au niveau de ces états généraux du ferroviaire, c'est tout simplement le rapprochement entre Réseau Ferré de France et la SNCF. Alors faut-il revenir à la fusion comme ça l'était le cas auparavant, ou faut-il choisir des modes intermédiaires, par exemple comme l'Allemagne, où Réseau Ferré allemand et la Deutsche Bahn sont effectivement séparés, mais avec une tellement forte intégration qu'on n'a pas ce genre de conneries qu'on a en France. Je pense qu'il faut la solution est certainement plutôt de ce côté-là, mais il faut arrêter cette séparation pure et dure.
Mais ce que vous nous dites là, c'est, si je vous comprends bien, c'est qu'en gros les élus doivent y aller avec leur pioche et leur pelle pour éventuellement poser des rails eux-mêmes, quoi.
Non, il faut simplement qu'au niveau législatif, la prochaine législature qui s'annonce fasse en sorte qu'on retrouve les moyens de faire en sorte que SNCF et Réseau Ferré de France fonctionnent ensemble, ce qui n'aurait jamais dû être le cas. Et je pense que si c'est une conclusion des états généraux du ferroviaire, ce sera déjà une grande avancée.
Joël Giraud, une question aussi pour vous d'un des auditeurs sur le Facebook d'Alpe 1. À propos du tunnel du Mont-Genèvre, voilà plus d'un siècle qu'on en parle, il vient d'être écarté du SNIT et absent du programme RTET européen. À la lecture des finances publiques franco-italiennes, est-il bien raisonnable de poursuivre ce qui apparaît malheureusement chaque jour un peu plus comme une chimère? Merci d'avance.
Bah déjà, il n'a pas été écarté du SNIT, puisque je l'ai fait remettre dans le schéma national des infrastructures de transport. Donc il y est en tant que liaison transfrontalière. Il n'y est pas sur la carte, mais il y est dans le texte. Au même titre d'ailleurs que Mulhouse-Fribourg ou que Pau-Canfranc. Donc il est bien dans le schéma national des infrastructures de transport. Et deuxième chose, sur la remarque concernant le financement, la différence entre l'autoroute A51 et le tunnel ferroviaire du Mont-Genèvre, c'est que les concessionnaires sont prêts à financer 80% du tunnel ferroviaire sur le Mont-Genèvre parce qu'il y a des péages à la clé, des péages de TGV notamment, pour servir une zone de chalandise qui est importante, qui est la zone de chalandise de l'ensemble du Briançonnais et de l'Embrunet. Donc on est sur des logiques qui sont complètement différentes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un petit coup de pouce de politique volontariste, je dirais, des deux États, et nous avons déjà, je le signale, l'accord des autorités piémontaises, ce qui est quand même...
Donc il y a une avancée, malgré tout, la chimère est en train de se transformer en réalité.
La chimère va quand même beaucoup mieux. Et économiquement, quand on a 80% d'une concession qui est capable de payer, alors que d'un autre côté, on a 90% de fonds publics à demander sur la 51, et bien effectivement, c'est plus, je dirais, raisonnable de continuer à poursuivre l'action sur le Mont-Genèvre que sur l'autoroute A51.
Même si pour l'autoroute A51, les privés disent « vous nous donnez la concession pour un certain nombre d'années, nous on vous la fait gratuit ».
Bah, écoutez, moi, les concessionnaires que j'ai interrogés ne m'ont pas dit ça. Ils sont restés à 10 à 20%.
Vous avez vu qui?
Moi, j'ai vu la totalité des concessionnaires. La totalité. Et je les avais vus en présence du ministre lors d'une réunion publique, enfin d'une réunion publique, une réunion qui était largement partagée.
Allez à l'encontre de ce que nous dit le sénateur alpin Pierre-Bernard Raymond, qui lui dit.
Mais je sais.
Qui on croit là? L'auditeur doit écouter qui dans ces cas-là?
Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait effectivement que les conclusions de la réunion à laquelle j'ai assisté et à laquelle il a assisté à l'époque puissent être rendues publiques.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Merci. Merci Joël Giraud d'avoir été
Merci
notre
à
invité.
Vous.
Retrouvez l'invité de la rédaction en podcast sur alpe1.com.